VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Mouvement de contestation en Algérie, un millier d'étudiants manifestent de nouveau ce mardi à Alger, au lendemain de l'annonce de la prochaine démission du président Abdelaziz Bouteflika d'ici au 28 avril, date de la fin de son mandat. Après avoir tenté de s'accrocher au pouvoir, le leader algérien se dit maintenant prêt à quitter le pouvoir une fois prises les mesures nécessaires, précise-t-il, pour assurer la continuité de l'État durant la période de transition. Une décision accueillie avec méfiance par les contestataires. Beaucoup de partisans du changement réclament non seulement le départ du chef de l'État, mais aussi la fin du système au pouvoir, pour que le peuple algérien puisse voter librement pour élire son prochain président. Certains craignent aussi qu'Abdelaziz Bouteflika n'utilise la période de transition pour placer ses fidèles et garder la main pendant l'intérim. Au Mali, la force française Barkhane va désormais étendre ses efforts de l'autre côté du fleuve Niger, dans la zone adjacente du Gourma, frontalière du Burkina Faso. La force anti-djihadiste était jusque-là limitée à une série d'opérations militaires pendant un an et demi dans le Liptako, dans le nord-est du Mali. La nouvelle zone d'opération de Barkhane est un vaste espace de passage situé sous la boucle du fleuve Niger, traversé par la route reliant Bamako à Gao, dans le nord du pays. Le Gourma s'étend sur trois régions maliennes, Gao, Tombouctou et Mopti. Il est réputé être une zone sanctuaire pour plusieurs groupes armés implantés notamment dans les forêts et à la frontière avec le nord du Burkina Faso, souligne le général Frédéric Blachon, commandant de l'opération Barkhane. Au Burkina Faso voisin, plus de 10 personnes ont été tuées entre dimanche et lundi dans des attaques dans le centre-est et la zone sahélienne du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga dans la province du Boulgou, région du centre-est, a annoncé lundi soir le ministère chargé de l'administration du territoire. 8 civils ont été tués dans l'attaque et 4 autres blessés selon le gouvernement. Selon toujours le gouvernement, les assaillants ont pillé et incendié les boutiques et le marché du dit village avant de replier. Le ministère de l'administration territoriale tente d'expliquer que cette attaque serait un rebondissement de la crise qui secoue depuis un certain temps la chefferie coutumière de cette localité. Cette fois-ci à Arbinda, dans le Soum, région du Sahel, les guides spirituels et 2 membres de sa famille ont été tués ce week-end, selon des sources sécuritaires. En attendant une annonce officielle des autorités, plusieurs sources indiquent que suite à l'assassinat de ce guide spirituel, plusieurs autres personnes ont été tuées hier lundi. La situation reste tendue à Arbinda et les populations craignent de nouvelles violences, ont précisé d'autres sources à VOA Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, RDC, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, s'est déclarée hier profondément préoccupée par l'injonction faite aux directeurs généraux de la télévision d'État, RTNC, et de la chaîne privée Télé 50 par les nouveaux responsables du renseignement. L'ordre de ne plus diffuser des reportages sur l'ancien président Joseph Kabila. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, se dit choquée par la convocation adressée à Jean-Marie Kassamba de Télé 50, proche de l'ancien président Kabila, et au directeur général de la RTNC, la télévision d'État, par l'Agence nationale des renseignements ANR. Leur convocation à se présenter devant un responsable de la sécurité intérieure à l'ANR avait pour objet de leur indiquer de ne plus passer sur leur chaîne des reportages ou émissions mettant en exergue l'ancien président Kabila. A écrit la cage citant M. Kassamba. Au lendemain de cette convocation, l'ANR a ordonné la coupure du signal de Télé 50, une télévision dont l'un des principaux actionnaires est M. Moïse Ekanga, un proche de M. Kabila. Depuis samedi, la chaîne n'est captée que par décodeur.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Poursuite de notre série sur le 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, a recueilli le témoignage de Sixbert Bigirimana, jeune banquier de 33 ans. Il avait 8 ans au moment du génocide, mais aujourd'hui, il a pardonné à ceux qui ont tué son père et sa mère et se dit résolument optimiste quant à l'avenir du Rwanda et de l'Afrique.
1994, je n'avais que 8 ans. Quand l'avion présidentiel a été abattu, j'ai vu beaucoup de mouvements à la maison, beaucoup de gestes, mais je ne parvenais pas à savoir exactement ce qui se passe. On nous avait interdit de jouer, on nous avait interdit de circuler dans toutes les chambres, et on nous demandait seulement de rester dans une seule chambre. Le lendemain, les inéras, moi, avaient déjà attaqué à la maison. On a pu sauter le mur pour aller chez les voisins. Parce qu'on était une fratrie de 7 enfants. Une partie est allée chez les voisins pour se cacher. Et nous, on est partis encore chez d'autres voisins. Ils ont continué à tuer et tuer beaucoup de gens. Finalement, on apprendra que nos parents ont été tués avec un enfant là où ils étaient cachés. Un de mes frères, qui connaissait déjà les petites ruelles, a attendu la nuit pour nous emmener là où il y avait de la sécurité. Il y avait un blanc qui était dans un des orphelinats qu'on appelle le centre mémorial Yisimba, et c'est là où on nous a emmenés. Les Inéramoué viendront plus tard apprendre que dans cet orphelinat, il n'y a pas que des enfants, que même les adultes se sont réfugiés là-bas. C'est là où les problèmes commencent.
Ils vont attaquer l'orphelinat ?
Ils ont voulu attaquer l'orphelinat, mais grâce à ce monsieur, à ce blanc-là, je ne me rappelle pas son nom. Seulement, mon seul souvenir, je me rappelle qu'il travaillait dans une ONG qui s'appelle ADRA, qui fournissait de l'eau potable. Il a sauvé beaucoup de gens. Grâce à ses connaissances et à ses contacts, il a pu nous évacuer à la cathédrale Saint-Michel, c'est au centre-ville, et c'était gardé. À la cathédrale Saint-Michel, on est resté là-bas jusqu'à ce que les soldats du FPR prennent Kigali. Le camp Kigali, la ville de Kigali a été prise. Même si j'étais petit, je l'ai vu directement sur le visage des gens. Les gens, ils souriaient, ils étaient contents. Notre tante maternelle nous a récupérés. Après, bien sûr, l'État a mis à notre disposition une institution qui devait couvrir nos frais de scolarité, le Minerval et tout le reste.
Vous avez fini vos études en quoi?
J'ai fini mes études dans les finances. Je suis un banquier, je suis marié avec un enfant. Je suis à la banque commerciale du Rwanda.
25 ans après, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il a pardonné?
J'ai eu de la chance, j'étais encore petit. J'ai 33 ans. C'est aujourd'hui à cet âge-ci que je me rappelle et j'ai la nostalgie de mes parents. Mais tout compte fait, je vois que j'ai certains frères et certaines sœurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Il y en a d'autres qui ont trop souffert plus que moi. Moi, je crois que je les ai pardonnés. Puisque si vous regardez aussi, vous trouverez des gens, même des Hutus qui ont sauvé des gens. Il y a des Hutus qui ont sauvé des gens. Ma chance, c'est que j'étais encore petit. J'ai la nostalgie de mes parents, c'est vrai. Mais ce qui est arrivé dans ce pays, je ne suis pas le seul. Il y en a ceux qui ont connu pire. Mais j'ai pardonné.
Marié, une fille, banquier. Est-ce qu'on peut dire qu'il se considère comme un homme heureux maintenant?
Je suis très heureux. J'étais petit pendant le génocide. Mais je crois que avoir aujourd'hui une femme et un enfant, avoir ma famille, ça vient combler ce vide de mes parents.
Des témoignages recueillis à Kigali par notre envoyé spécial au Rwanda, Idriss Fall. Les effets du cyclone Idai au Mozambique maintenant, suite aux inondations provoquées dans le pays par le cyclone, une épidémie de choléra se propage actuellement dans le centre du pays. Bilan provisoire, au moins un mort et 1052 cas de la maladie. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est dans le port de Beira, ville complètement dévastée par le cyclone Idai, que la première victime a été recensée. Hier, lors de son bilan quotidien, le directeur national de la santé, Hussein Issé, a indiqué que le nombre de cas de choléra enregistrés continuait à augmenter. 96 patients ayant contracté la maladie sont toujours hospitalisés. Près de 900 000 doses d'un vaccin oral sont attendues au Mozambique et la vaccination devrait commencer mercredi à Beira et jeudi dans les villes de Dondo et Namantanda. 9 centres de traitement du choléra ont été mis en place dans la province autour de Beira pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, l'OTAN célèbre ses 70 ans à Washington. Et le président américain Donald Trump lance aujourd'hui les festivités marquant cet anniversaire. Le chef de l'exécutif américain reçoit notamment à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.